RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h09, c'est RMC, et c'est le week-end des experts, les animaux qui se poursuit après notre première partie et vos questions au 32-16. Il est temps maintenant, pour ce deuxième acte, eh bien, de parler de guépards et de leur protection, de découvrir tout à l'heure une appli mobile indispensable pour retrouver son animal de compagnie. Et puis, nous irons à Marseille aussi découvrir un chien pas comme les autres, hein, Laetitia, tout à l'heure.
Et oui, un chien qui vient d'être médaillé de la médaille d'honneur de la police nationale, là.
Incroyable.
Eh oui, voilà. Pas beaucoup, hein.
Ça sera tout à l'heure. Nous aurons le brigadier chef Éric Tisserand, qui est le maître de choc, qui sera avec nous au téléphone. Le 32-16, bien évidemment, animaux@rmc.fr si vous voulez joindre ce matin Laetitia Barlerin et réagir au sujet que nous évoquons ensemble. Tiens, est-ce que vous avez peut-être, si vous avez beaucoup de place chez vous, si vous avez par exemple un grand jardin ou un terrain autour de votre maison, peut-être avez-vous un âne ou deux? On aimerait bien vous entendre témoigner ce matin pour nous dire comment ça se passe. N'hésitez pas si c'est le cas. 32-16, puisque nous allons parler tout de suite des ânes, Laetitia.
Et nous sommes avec Catherine Kieffer, qui est docteur ingénieur en agronomie, nutritionniste équin et co-auteur d'un livre qui s'appelle « Le grand guide des soins aux ânes ». Catherine, bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que il faut savoir quand même que l'âne a failli disparaître dans les années 70. Et depuis, bah, il rencontre quand même un véritable succès. Moi, j'en vois de plus en plus à la campagne et surtout chez des particuliers. Alors, à quoi est dû ce retour de l'âne?
Ancestralement, l'âne était omniprésent dans nos campagnes. Il fait partie des contes et des histoires de notre enfance. Il était dans la crèche. Et
c'est
il
vrai.
Accompagnait les transhumances, les chansons, les poèmes. Et puis, effectivement, la population avait beaucoup régressé dans les années 70 et là, elle est remontée en flèche. Faut dire que l'âne a un énorme capital de sympathie auprès des gens. C'est un animal qui intéresse, qui fascine, qui fait moins peur qu'un cheval, une petite taille. Il est rustique et puis il évoque la nature, le rythme avec les saisons, une vie plus simple peut-être. Je pense que nos contemporains en ont besoin.
Alors on parle beaucoup aujourd'hui de l'âne de compagnie. Est-ce qu'il peut devenir un animal de compagnie comme un chien, un chat?
Certains le pensent, effectivement. Mais le problème qu'on a avec l'âne, c'est que nous connaissons tous, nous avons vécu dans des familles où il y a des chats et des chiens, et en fait, il y a un savoir qui se transmet dans les familles sur la façon de s'occuper d'un chat ou d'un chien, alors que l'âne, ce savoir ne s'est pas transmis, il est un peu perdu. Ce qui fait que les besoins réels d'un âne sont assez méconnus et qu'on a des gros problèmes, notamment sur le plan alimentaire.
Ah, et au niveau surface aussi peut-être, quelle est la surface minimale pour avoir un âne, quoi? Quelles sont les conditions pour avoir un âne?
Il faut, je dirais que la première condition, celle auquel on ne pense pas, c'est pas la surface, c'est des problèmes de disponibilité. L'âne est un animal très sociable, sensible. Il a besoin d'une présence et des soins réguliers.
Ah oui, il peut pas rester seul, c'est ça?
Ah non. Ah,
voilà. On peut pas le laisser dans un champ, enfin dans un pré, seul pendant la journée ou plusieurs jours, c'est impossible.
On peut, mais ce n'est pas bon pour lui. Si vous voulez, c'est un animal qui a besoin de contact et qui, quand il n'en a pas, ça va pas. Et puis, il y a des soins, il y a le parage, il y a des problèmes de dents. Et il faut bien connaître l'âne. Alors après, question surface, vous me posiez la question, je dirais qu'un demi-hectare à un hectare, c'est bien.
Mm-hmm.
Ceci étant, si on a un peu moins, mais que l'âne est occupé, que l'âne travaille, etc., et qu'on peut lui fournir du fourrage par ailleurs, ça peut tout à fait marcher.
D'accord. Mais est-ce qu'il faut prendre un âne ou plusieurs ânes? Parce que ils sont vraiment, ils aiment bien la compagnie. Alors je sais que souvent on met un âne avec même un cheval, parce que le cheval aussi est un animal grégaire. Voilà, on essaye de mélanger des fois aussi des espèces.
Oui, tout à fait. Alors l'âne, de toute façon, c'est pas bien qu'il reste seul. Mais effectivement, il peut avoir soit des congénères de la même espèce que lui. Soit d'autres animaux comme le cheval. Le problème quand on le met avec un cheval, c'est que les besoins alimentaires de l'âne et du cheval ne sont pas du tout les mêmes.
Ah.
Et que donc à ce moment-là, on est obligé forcément de complémenter le cheval, ou alors il y en a trop pour l'âne.
Donc il grossit,
et c'est vraiment on a deux grands types de pathologies sur l'âne à l'heure actuelle, alimentaires, qui sont liées au fait que certains ânes sont surnourris. Hein. Mmh. On leur donne du son, on leur donne des carottes, on leur fait plaisir, etc. C'est très, très mauvais pour leur santé, à tel point qu'il y a même une maladie qui s'appelle la maladie de l'âne du Meunier.
C'est-à-dire, c'est quoi?
C'est des problèmes osseux extrêmement graves.
Ah oui.
Une
comme une fourbure ou...
Alors, il y a la fourbure, c'est ce qu'on a le plus souvent, mais on peut avoir des problèmes osseux extrêmement graves. L'âne est un animal de milieu désertique. Et recréer au beau milieu de la Normandie ou de la Beauce un milieu désertique n'est pas forcément évident.
C'est sûr.
il y a surabondance pour lui.
Voilà.
Et puis souvent aussi on lui donne des friandises quoi, des carottes, ce qu'il mange tout quoi.
Oui, alors que ça c'est totalement à proscrire pour lui.
Et oui, mais comment justement entrer en contact avec l'âne, comment avoir des interactions avec lui, parce que c'est facile de lui donner à manger, on sait qu'il va venir, il va manger dans la main et voilà, on pense qu'on a des interactions comme ça.
Eh ben je dirais qu'une bonne gratouille, travailler avec c'est important parce que si vous voulez, si
qu'est-ce
vous
que vous
emmenez,
appelez travailler?
Ça peut être de l'attelage, des petites choses, ça peut être du trait. Du trait dans les jardins, mais ça peut être aussi partir en balade avec.
Oui, c'est ce que j'allais dire, faire de la randonnée avec un âne.
Tout
c'est bien
fait.
Ça.
Tout à fait. Et dans ces cas-là, si vous voulez, l'âne vous appréciera non pas uniquement parce que vous lui remplissez le ventre, mais parce qu'avec vous, il va faire plein de choses intéressantes, quoi.
Alors, on dit que l'animal ne se dresse pas, mais il s'éduque. C'est vrai qu'on éduque un âne. Comment on fait pour éduquer un âne?
Il y a une grosse évolution au niveau des équins en général, et même pour les chevaux. Même si on a gardé l'antique terme de dressage, ça ressemble de plus en plus à de l'éducation. Et en fait, on éduque un âne en lui apprenant qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas.
Oui.
Et notamment, il y a une chose, c'est que souvent l'âne est en contact avec des enfants et il faut expliquer à l'âne très très clairement que la morsure qui donnerait un petit ânon pour le repousser, il est hors de question qu'il fasse la même chose avec votre gamin.
Et oui. Mais c'est comme ça qu'ils jouent entre eux, justement.
Mais oui, sauf qu'eux, ils ont du cuir, nous pas.
Est-ce qu'il faut un budget conséquent pour avoir un âne?
L'âne, au niveau budget, c'est quand même assez limité. C'est beaucoup moins qu'un cheval. Je dirais quelques dizaines d'euros par mois. Il y a la nourriture qui peut coûter un peu, mais il y a surtout les soins vétérinaires. Il y a ce qu'on voit, c'est des âmes qui sont pas assez parées, qui n'ont pas assez de soins dentaires. Et tout ça, c'est très très important pour leur santé et leur bien-être.
Alors, on dit qu'ils ont une santé robuste. Il faut savoir quand même qu'ils vivent longtemps. Et ça, il faut le prendre... avant d'acheter un âne, il faut savoir aussi qu'il va rester longtemps à la maison.
Ah ben, un âne, c'est 40 ans. C'est un peu plus qu'un poney. C'est un peu plus qu'un cheval. Encore qu'on voit de plus en plus d'animaux âgés, parce que les animaux sont relativement bien traités. Donc... forcément, il dure plus longtemps.
Oui. Hein,
dans les pays pauvres, on considère qu'un âne vit 12 ans. C'est vous donner une idée.
Ah oui, d'accord. mais 40 ans, c'est vrai. Moi, je connais une ânesse qui a 42 ans.
Oui. Et ça marche très bien. Mmh. Par contre, quand on arrive sur des âges avancés, on a un problème qui devient à ce moment-là un problème difficile à régler, qui est le problème alimentaire, parce que souvent, ils n'ont plus de dents.
Oui.
Et donc, ça, c'est des problèmes qu'on ne connaissait pas et qu'on a maintenant. Et à ce moment-là, effectivement, faut venir à une alimentation qui est assez technique, mais qui se fait bien, pour que l'âne continue à s'alimenter malgré cette déficience dentaire.
Catherine, merci pour toutes ces précisions.
Merci Catherine. Alors, je conseille vraiment votre livre qui s'appelle Le Grand Guide de soins aux ânes, aux éditions France Agricole. C'est un livre collectif que vous avez écrit avec Pierre Miriski et la vétérinaire Anne Thébault. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Vous aurez vraiment beaucoup d'indications sur si vous voulez un âne, mais bien réfléchir avant, bien sûr, comme tout animal.
Bien entendu.
Et voilà, c'est quand même un âne.
Voilà, et puis ça demande l'investissement humain en tout cas.
Oui.
Merci Catherine.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci,
au revoir.
Bon dimanche, au revoir.
Dans un instant, un autre animal, Laetitia, cette fois-ci peut-être pas forcément apprivoisable, mais malgré tout en danger, on va parler du guépard avec notre invité. Le 3216, animaux@rmc.fr, n'hésitez pas à nous appeler.
Et en direct live avec le Kenya.
Et voilà, on ira au Kenya, à tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts, les animaux, Laetitia. Tiens, on va s'intéresser à un animal qu'on évoque assez rarement dans ce rendez-vous. Il s'agit du guépard. et on va découvrir l'association Cheetah Forever maintenant.
Voilà, une association qui a été créée par Tony Crosetta, qui est photographe animalier et que nous contactons en direct du Kenya. Tony, bonjour.
Bonjour Tony.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour.
Il y a un peu de vent chez vous là.
Oui, oui, je me suis, la connexion n'est pas toujours très bonne, je me suis mis au milieu de la plaine, un sommet au Masai Mara, faut imaginer, autour il y a la savane blonde, il fait très beau, mais il y a du vent, voilà, mais j'espère que la connexion
ouais,
ne trahira pas.
On vous entend bien, c'est quand même assez formidable. Et quelle heure il est, là où vous êtes?
Alors, il est une heure de plus, il est 8h20.
Il est 8h20.
8h20 chez nous.
D'accord.
On a une heure de décalage.
Bon, bah alors voilà, on a compris, vous êtes au Kenya et vous venez en aide aux guépards et plus précisément aux guépardos. Pourquoi? Enfin, les guépardos, ce sont les petits guépards.
Les guépardos, ce sont les petits des guépards. Tout simplement parce que, en prenant compte de mon expérience, je suis venu ici comme un jeune photographe il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Et à cette époque-là, il y avait des guépards partout, il y avait une très bonne densité. Il n'y avait pas les problèmes de surpopulation ou de pression humaine que peut connaître les Masai Mara aujourd'hui. Et j'ai pu constater avec quelques passionnés avec qui on a monté l'association que le guépard était en déclin très alarmant, pour ne pas dire au seuil de l'extinction. Et on ne pouvait pas rester les bras croisés à regarder ou à continuer à photographier sans réagir. Et la moindre des choses, c'était d'essayer de tenter de faire quelque chose. Et donc on a créé cette association Cheetah Forever qui vient en aide aux jeunes guépardos.
Alors justement, cette action se concentre sur le Maasai Mara, hein, c'est un parc qui est bien connu au Kenya, avec beaucoup, enfin il y a vraiment une richesse faunistique. Combien reste-t-il de guépards? Est-ce qu'on a une idée du nombre de guépards qu'il y a dans ce parc et au Kenya tout simplement?
Alors c'est extrêmement compliqué, il n'y a pas d'études précises de fait. Il y a des gens qui travaillent un petit peu, mais ils travaillent de façon un peu cloisonnée dans certaines parties du parc. Il faut savoir que le parc lui-même représente 1500 km² et qu'il y a des aires limitrophes de conservation dans lesquelles vivent les populations Maasai. C'est extrêmement compliqué de travailler sur un terrain qui est à la fois petit pour le guépard et puis qui semble grand à notre échelle. Mais on peut estimer ce que je peux en voir, qu'il doit rester entre 30 et 60 guépards au maximum. Quand je parle de 30 à 60, il s'agit des adultes, on ne comptabilise pas les petits qui sont très vulnérables et qui peuvent mourir très très tôt, enfin ou être détruits ou prédatés très très tôt. Donc on va estimer voilà entre 40 et 60 au grand maximum.
Alors vous dites que seul un guépard sur 20 atteindra l'âge adulte. Quelles sont les menaces sur ces petits? Parce que l'espèce est protégée.
Alors l'espèce, elle est protégée sur le papier et en théorie évidemment, mais après il y a la réalité des choses. Un sur 20, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui le disent d'une façon globale. Alors imaginez, hein, une femelle peut avoir jusqu'à 6 petits. Un seul petit qui atteint l'âge adulte, ça veut dire qu'il y a 3 portées et plus qui disparaissent totalement. Il y a 4 mots et c'est sur ces quatre axes-là que l'association travaille. Les petits peuvent être détruits. Il y a des espèces plus puissantes comme le lion qui détruisent, qui tuent d'ailleurs les adultes mais aussi bien les petits qui sont très faciles à capturer. Donc la destruction, la prédation, par exemple par les hyènes, qui sont, on peut dire, voilà, même si c'est difficile à affirmer, qui sont vraiment sur le nombre, il y a vraiment un déséquilibre depuis quelques années qui a été remarqué par tous les scientifiques, qui eux sont capables, les hyènes sont capables de dénicher une portée et puis l'anéantir en une seule.
Ce sont des grands prédateurs, les hyènes.
Il faut aussi, oui, puis très efficace par ailleurs. Aussi le dérangement, il faut savoir qu'il y a un équilibre très fragile entre la nécessité d'un écotourisme responsable, où il y a des gens payent pour pouvoir entrer dans ces parcs, et cet argent-là va servir à payer des rangers qui vont faire de la lutte anti-braconnage ou surveiller qu'il n'y ait pas de dérangement, comme ça peut être le cas parfois avec des touristes ou des acteurs du tourisme qui sont un peu scrupuleux. Et puis surtout, je vous entendais tout à l'heure vous faisiez votre conclusion au sujet des ânes. Malheureusement, oui, les guépards peuvent être apprivoisés et il y a un trafic de jeunes plein de guépards d'eau qui partent dans les pays arabes. Hein, vous googlez par exemple Dubaï et Cheetah et vous allez avoir c'est éloquent. Donc il y a aussi du trafic de bébés guépards d'eau qui a une valeur marchande très importante. Il faut savoir que les guépards d'eau, on ne peut pas les reproduire en captivité. C'est extrêmement compliqué. Par exemple, c'est possible pour les lions, c'est possible pour les tigres. Oui. C'est extrêmement difficile pour les guépards d'eau. Et donc il y a que quelques zoos spécialisés qui arrivent. Et donc il y a un gros trafic sur les petits.
Alors, en pratique, vous êtes un petit peu les gardes du corps des petits, des guépards, c'est ça?
Oui, pas nous personnellement. En fait, l'idée de l'association Cheetah Forever, c'est une association française, plutôt lucrative évidemment, qui est en charge de financer un programme qu'on a mis en place ici. Et ce sont les Maasai eux-mêmes, donc c'est les communautés ici même, qui protègent leurs guépards, parce que ça leur appartient. Hein, les guépards font partie du patrimoine mondial et universel de tous. C'est quand même, ça se passe dans le Maasai Mara. Donc ce sont en fait des Maasai, des brigadiers et des rangers officiels qui vont les protéger jour et nuit. Alors pour l'instant, on a commencé que la phase jour, mais très très rapidement. Mmh. On est en train d'acquérir le deuxième véhicule pour attaquer la phase de nuit. Et on va surveiller, on va choisir une femelle qui a des petits, et on va surveiller ces petits de leur naissance, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 3, 4 ou 5 mois, au moment où ils sont très vulnérables et où la mortalité est extrêmement importante. Après 4 ou 5 mois, on peut considérer que les guépards d'eau sont en mesure de se débrouiller par eux-mêmes, et même s'ils continuent à avoir une prédation qui est naturelle, qui est bien on peut dire nécessaire, le taux de mortalité a considérablement chuté et on peut les laisser tranquilles à ce moment-là.
D'accord.
Merci beaucoup, Tony.
Alors, je rappelle que votre association s'appelle Cheetah Forever. Et justement, c'est une association française.
Voilà. Cheetah étant le nom anglais de guépard.
De guépard, voilà, d'accord. Tout simplement. Alors, vous avez des mécènes comme le zoo parc de Beauval, mais vous attendez bien sûr. On peut vous aider à faire. On peut aller sur votre site internet pour suivre l'histoire des petits guépardos que vous protégez.
Tony-crosetta.com.
Ou cheetahforever.org. Tout simplement. Et puis, vous pouvez aussi faire des dons pour votre association pour aider ces guépards et pour qu'ils atteignent l'âge adulte.
Merci beaucoup, Tony. Merci pour ce moment depuis le Kenya. Hein.
Ça, voilà. Bon formidable. Dimanche dans la savane.
Ça, c'est cool. Hein. Bon dimanche dans la savane. Ça, c'est franchement... C'est pas tous les jours qu'on peut dire ça. Allez, la météo, les infos. Bon dimanche à côté du périphérique pour nous, hein, Laetitia. On revient dans un instant et on va découvrir Choc, qui est un chien étonnant qui est à Marseille, et puis une nouvelle appli indispensable pour retrouver son animal de compagnie. À tout de suite. Laetitia, attention! C'est la question flash, alors que les coqs se réveillent. En moins de 2 minutes, maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Michaela. Michaela, je suis très sportive, nous dit Michaela.
Oui.
Et j'aimerais adopter un chien. Quelle race choisir pour courir avec moi? Pas trop gros, car je vis en appartement en rez-de-jardin.
Pas trop gros, pas trop petit. Voilà. Bon, faut savoir d'abord que le chien, c'est une espèce qui est taillée pour la course, déjà. Tous les chiens courent.
Tous les chiens.
Alors, c'est vrai que moi, je ne prendrais pas une race avec un nez écrasé. Genre bulldog français, bulldog anglais, shih tzu. Parce qu'ils ont des problèmes respiratoires. Alors, je sais pas si Michaela court très vite ou beaucoup. C'est vrai que ces chiens-là, à un moment, ils tirent la langue. Hein, voilà.
Ouais, c'est un peu bouché.
Voilà. Il faut aussi éviter, ceux qui ont des problèmes articulaires ou des problèmes cardiaques. Puis, il y a des chiens qui sont beaucoup plus sportifs que d'autres. Par exemple, tout ce qui est berger, les border collies aussi. Vous savez, ces chiens de berger qui sont vraiment très speed. Les chiens de chasse, les terriers, les Jack Russell terriers, ils sont très sportifs aussi. Moi, ce que je vous conseillerais vraiment, Michaela, c'est d'aller en refuge. Vous savez, il y a énormément de chiens proposés à l'adoption en refuge. Et vous allez demander justement un chien sportif qui veut courir. Et vous savez que la course, c'est vraiment quelque chose qui déstresse le chien. Il a besoin de se défouler. Donc vous allez trouver le chien qu'il vous faut. Pas trop gros, pas trop petit, etc. Mais allez en refuge. Vraiment, vous allez trouver le chien qu'il vous faut en refuge. Et puis, mettez-le, vous savez, là, attachez-le à votre ceinture par un harnais, plus une longe élastique, là, ce qu'on appelle le canicross, hein. Oui. C'est vraiment les accessoires.
On a les mains libres et le chien est accroché
voilà,
à nous.
Voilà, vous avez les mains libres et puis le chien vous tire et naturellement, ça va se faire. Vous allez voir, naturellement, il va vous tirer.
Et après, quand il vous tire, vous mettez un skate et vous n'avez même plus à courir, en fait. C'est ça qui est pratique.
Hein. Bah, vous avez le cani VTT aussi, vous l'accrochez à votre VTT, c'est pas mal, ça aussi.
32-16 pour toutes vos questions animaux sur RMC. On vous attend, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
sommes de retour sur RMC, il est 7h35, merci d'être avec nous, bon dimanche, bon réveil à vous toutes et à vous tous. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous unique. Seul RMC vous propose 2 heures dédiées aux animaux tous les dimanches, 6h, 8h, avec notre veto. Notre veto qui c'est
Le veto, voilà. Hein, quand même. C'est vrai. Faisait longtemps.
Oui, ça faisait longtemps, mais
enfin,
ça
pas,
va.
Pas que je me lève tôt, mais...
Ouais. Tout à l'heure, Laetitia, nous allons découvrir Choc.
Choc
est un chien.
Chien flic.
C'est un chien de Marseille. Oui. Alors, je ne sais pas s'il a l'accent, mais en revanche, il est très valeureux.
Oui, il vient de recevoir une médaille d'honneur de la police nationale. Quand
non,
même.
Mais vous vous rendez compte.
Attention, hein.
Franchement, où est-ce qu'on accroche une médaille à un chien, tiens. C'est la question qu'on pourra poser peut-être tout à l'heure au brigadier.
On évite les pingles, quand même.
Oui, voilà, c'est ça, le pauvre. Il risque d'avoir mal. Hein. Bon, on s'intéressera à son cas tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, Laetitia, une appli pratique au cas où... Et alors, c'est toujours un stress, un drame. Au cas où on perd son animal de compagnie.
Et voilà, et c'est une appli qui est vraiment simple, mais vite indispensable, vous allez voir. Ça s'appelle Buzz My Pet, et nous sommes avec Thibaut Vallès, qui est créateur de l'appli Buzz My Pet. Bonjour Thibaut, merci
bonjour
d'être
Laetitia,
avec nous.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour.
En studio. Alors comment, parce que vous êtes quand même, à la base, producteur télé, faut le dire. Comment un producteur télé devient créateur d'une appli pour retrouver facilement un animal perdu? C'est quoi le...
Au départ, c'était simple. Pour retrouver les animateurs perdus. Peut-être.
Exactement. C'est on en a cherché beaucoup et voilà. Ça n'a pas marché.
Voilà. Donc vous avez dit, on va se recaler sur les animaux. C'est pas mal.
Alors, malheureusement, c'est une histoire pas très drôle. C'est que j'avais un petit chien, un beagle, et qu'on a perdu avec mes enfants, qu'on a perdu l'année dernière. Et ça a été un drame, comme ça doit être des Bien drames sûr. Dans plein de familles partout en France. Et donc, on a mis des affichettes partout. On a essayé de mobiliser les réseaux sociaux et rien n'est fait, on n'a pas retrouvé ce petit chien, ce petit beagle.
Et en c'est là que vous vous êtes rendu compte que ce qu'il y avait, qu'enfin, il y avait un problème, quoi.
Il y avait un problème parce qu'il y avait des petites choses sur les réseaux sociaux, mais il n'y avait rien de très important. Et en parallèle de ça, l'été dernier, Mac Guazzini, que vous connaissez, a également perdu son petit chien et a mobilisé les réseaux sociaux. Et au bout d'un moment, il a réussi à le retrouver. On s'est dit quand même,
grâce
il y a un manque.
Grâce aux réseaux sociaux, là.
Exactement. Ouais. Donc on s'est dit, il y a un manque. Créons, et il n'y avait pas d'application mobile. C'est-à-dire, il y a des sites internet, pas d'application mobile. En se disant, on va faire une application préventive. Le but, c'est évidemment, on n'est jamais préparé à perdre son animal. Donc, on télécharge cette application Buzz My Pet qui est gratuite. On l'a en permanence sur son téléphone.
Même quand on n'a pas perdu son
animal. Exactement. Parce qu'il y a deux buts. Le premier, c'est qu'évidemment, si on le perd, c'est dans les premières minutes, dans les premières heures qu'on a le plus de chances de le retrouver.
C'est comme les enfants.
Exactement.
Mais c'est vrai, en plus.
Avec un clic... Tous les utilisateurs de cette appli sont prévenus dans leur périmètre que ce type de chien a été perdu. Et tous les amateurs passionnés de chiens ont cette application et reçoivent cette alerte comme quoi il y a tel ou tel chien qui a été perdu à tel endroit. Et donc chacun peut se mobiliser pour essayer de le retrouver grâce à cette application parce que c'est basé sur la géolocalisation. Donc j'ai vu ce chien-là, je l'indique sur l'application que je l'ai vu dans telle rue et l'utilisateur reçoit cette information et ça permet d'augmenter les chances de le retrouver.
C'est un peu l'ubérisation de la recherche des animaux.
C'est exactement l'ubérisation de la recherche des animaux. Ça remplace l'affichette dans le supermarché ou de la boulangerie. C'est l'affichette 2.0. Voilà. Mais tout le monde a la plupart des gens quasiment ont un téléphone portable. Et donc, n'importe où en France, n'importe quel endroit, on peut déclencher l'alerte et on peut augmenter les chances de retrouver son animal.
Sur iPhone et Android?
Exactement, sur iPhone et Android, Buzz My Pet.
Pour bien comprendre. Alors, on télécharge l'appli. Alors, on rentre la fiche de son animal, hein. Alors, on peut mettre tous les animaux.
On peut mettre tous les animaux.
Son canari, sa tortue.
Pourquoi pas. Alors c'est vrai que la plupart des utilisateurs à date sont plus chiens et chats, mais on peut tout imaginer.
Ça va être un peu compliqué quand même.
Voilà. De le retrouver, de différencier un canari d'un canari.
C'est ça.
Alors on peut mettre sa photo, le nom de l'animal bien sûr, la race, l'âge, etc. Le fait qu'il soit petit, grand, enfin beaucoup d'indications. Et alors voilà, je promène mon chien Indy, elle se fait la malle, qu'est-ce qui se passe? J'envoie juste, j'appuie sur « je l'ai perdu ».
Comme Laetitia, vous avez téléchargé cette application,
oui.
Et je vous souhaite pas de perdre votre petite chienne.
Alors,
mais
juste
en
une chose, Thibaut, juste avant, Laetitia n'est pas hyper geek. Ça, je dois quand même vous le dire.
Je suis obligé.
Alors là, je suis quand même de dévoiler un pan de la vie privée de Laetitia. Je suis désolé, là, comme ça, à 7h40, je pense que certains auditeurs qui sont fans risquent d'être un peu déçus.
J'ai téléchargé l'appli.
Vous avez réussi à télécharger l'appli.
Je l'ai réussi.
Laetitia.
J'ai réussi à rentrer quand même le profil d'Indy.
Je suis impressionné.
J'ai reçu d'ailleurs des annonces comme quoi, dans le quartier où j'étais, il y avait un chien qui s'était perdu.
Bon ben voyez, vous ben pouvez. Voilà.
Et qui avait été.
Comme quoi, après, je suis mauvaise langue, hein, Thibault, vous avez
et,
vu.
Et j'étais très étonnée parce que peut-être une demi-heure ou une heure après, il avait été retrouvé. Et j'ai eu l'annonce aussi.
Et c'est le but. Le but, c'est de mobiliser cette communauté de passionnés d'animaux de compagnie pour que tout le monde la télécharge et qu'on ait le maximum de chances de retrouver les animaux, qu'il y en ait moins en moins.
Moi, j'ai une petite question. Donc, j'ai téléchargé l'appli, je reçois une notification parce que j'imagine que c'est comme ça en me disant, ben voilà, dans ton périmètre, il y a quelqu'un qui a perdu un chien. Je vois le chien. Qu'est-ce que je fais ?
Je l'indique tout de suite sur l'application. Alors, soit j'arrive à attraper le chien, c'est encore plus simple, et j'envoie un message à l'utilisateur, c'est celui qui a perdu son animal.
Je peux
directement le contacter. Ou si j'arrive à pas l'attraper, j'indique sur la carte que je l'ai vu à tel endroit, telle rue. Et donc, celui qui a perdu son chien va tout de suite recevoir un message comme quoi son chien a été vu à tel endroit.
Je peux prendre une photo ?
Je peux prendre une photo, je peux lui envoyer une photo, je peux lui envoyer un message. Voilà. Le but de cette application BuzzMyPet, c'est de créer cette communauté de propriétaires de chiens et chats ou d'amateurs de chiens et chats pour qu'elles se mobilisent et soient la plus importante possible et qu'on puisse avoir un maillage total de la France et qu'on voilà que le nombre d'animaux qui se perdent chaque année qui doit être quasiment au niveau de 100 000 animaux de compagnie chaque année, alors c'est des chiffres qui sont un peu compliqués à trouver, réduisent au maximum. Voilà, c'est une application utile et préventive.
Et pour qu'elle soit efficace, il faut qu'un maximum de gens téléchargent l'application, bien sûr.
Exactement, et c'est gratuit. En plus.
Et c'est gratuit. Et franchement, c'est vraiment très très simple. Je peux vous dire, hein, pour une spécialiste.
Si Laetitia Barlera, alors là, franchement, si Laetitia dit c'est très très simple.
Tout est simple.
Non, franchement, mais, c'est formidable.
Je non, connais bon. Beaucoup d'applis animalières, hein, sur les animaux, et c'est pas forcément simple. Ou alors, c'est laborieux, faut prendre du temps pour rentrer, pour chercher. Pareil, il y a des applications qui, un des services de l'application, c'est de déclarer un animal perdu ou un animal trouvé, et c'est laborieux. Alors que là, c'est hyper simple. Et c'est vrai que tout le monde devrait avoir cette application. Alors, il y aura peut-être une V2 s'il y a beaucoup de succès, j'espère, et je pense qu'il y aura beaucoup de succès. Est-ce que on s'attend à avoir d'autres services dans cette appli?
Alors, on va déjà espérer que cette application fonctionne. Alors, elle a été lancée il y a une dizaine de jours. Elle commence déjà à bien fonctionner. Il y a plusieurs milliers d'utilisateurs déjà. Donc, on espère, grâce à cette émission, que ça va encore augmenter parce qu'elle est vraiment utile. Et derrière, évidemment, on va travailler sur une V2 qui va essayer de mettre en relation tous les utilisateurs et donc tous les passionnés d'animaux pour que ça puisse être une espèce d'une application d'entraide entre propriétaires d'animaux pour se garder son chien quand on part en vacances, tout ça évidemment gratuitement pour aller le promener parce qu'il y en a qui ont plus de temps que d'autres, etc.
Pour partager les promenades, c'est pas mal ça.
Oui, exactement.
Ça fait un peu Tinder quand même.
Et ben pourquoi pas, s'il y a des couples qui se créent grâce à cette application, c'est formidable.
Ce serait pas mal.
Si je sors mon chien, bon.
Il y a des photos de profil ou pas?
Oui. On n'a pas l'obligation de mettre sa photo de profil, mais on peut la mettre.
C'est-à-dire, on peut mettre la photo de profil du chien.
Voilà. Non, déjà, on met le chien. Ça, c'est, pour le retrouver, c'est mieux.
C'est
et puis
mieux.
Après, on peut mettre sa photo de profil si on veut.
Etc.
Voilà. Mais il n'y a pas d'obligation. Encore une fois, BuzzMyPet, on la télécharge gratuitement et en 30 secondes, on est inscrit. Donc, c'est vraiment très rapide, très simple. Voilà. Laetitia, vous l'a prouvé.
Oui, c'est vrai. Donc, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. J'ai une réputation incroyable.
Quand, on casse quand même l'image d'une vétérinaire superbe, compétente, etc. Voilà.
C'est François Sorel qui la casse quand même. Hein.
Attendez,
il faut quand même préciser que tout à l'heure, j'ai fait un quiz.
Oui, c'est vrai.
Où je l'ai coincé.
Oui.
Il n'a pas trouvé la bonne réponse.
Je le digère mal.
C'est un peu ma fête là en ce moment, hein, c'est sûr.
BuzzMyPet, merci beaucoup Thibault.
Merci à vous.
Et bonne chance donc à cette initiative qui en plus n'est pas, enfin il n'y a pas de business derrière tout ça, c'est vraiment du voilà.
C'est juste utile pour tout le monde.
Et il faut s'investir pour tout ça parce que ça prend du temps, c'est de l'argent, etc. Donc voilà, bravo.
Merci beaucoup.
8h moins le quart là, Tia. On revient dans un instant. Et on va découvrir Choc. Choc est un chien un peu particulier quand même, qui est à Marseille. Son maître sera avec nous, il est brigadier chef. Et ce chien a été récompensé, on en parle dans un instant. Et puis le 3216 à votre disposition, ou animaux@rmc.fr par mail pour nous joindre. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
7h46, merci de nous rejoindre. Bon réveil à vous toutes et à vous tous. Et comme chaque samedi et dimanche matin, 7h6, on salue tous ceux qui travaillent en ce dimanche matin et qui sont avec nous. Les professions médicales, bien sûr, ceux qui travaillent la nuit et qui terminent peut-être leur service. Les commerçants aussi, hein, qui sont déjà sur le pont. Et puis les chauffeurs de taxi qui, on le sait, sont très nombreux à nous écouter. Laetitia, direction Marseille maintenant.
découvrir Choc.
Avec Eric Tisserand, qui est brigadier chef. Eric, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Alors, votre coéquipier a quatre pattes, il s'appelle Choc. C'est un berger malinois mâle de 8 ans et demi même, précisément, qui vient de recevoir la médaille d'honneur de la police nationale pour acte de courage et dévouement. Alors, dites-nous qui est Choc.
Alors, Choc, c'est un chien berger belge malinois qui a aujourd'hui presque 9 ans. Il a été formé au centre CNFUC à Canécluse, qui est notre centre d'auto-formation.
Oui.
Et il officie depuis 2008 à l'unité canine de Marseille en tant que recherche d'un chien en recherche de produits stupéfiants depuis 2008.
Alors, il a un superbe bilan de carrière quand même. J'ai lu 850 kilos de cannabis, débusqués par...
Un peu plus même.
Ah non, oui, ah bon, ça a augmenté. Ah ouais.
Un petit peu plus.
Vous avez les anciens chiffres, Laetitia, je pense.
Oui, un petit peu plus, mais en gros, c'est ça, tout à fait.
22 kilos de cocaïne, c'est ça?
C'est ça.
300 grammes d'héroïne?
Oui.
Des armes, des billets, c'est vrai? Il débusque aussi des...
Non, mais c'est c'est le cauchemar des brigands, ce chien. C'est pas possible.
Disons qu'en fait, il est à signaler que c'est respectable. Les conséquences découvertes ont pu être réalisées grâce aux nombreuses sollicitations des divers services de notre DDSP, ainsi que c'est issu des différentes directions de la police nationale ou des services de gendarmerie ou de douane. Et en fait, quand on multiplie au cours des milliers de missions qui sont faites, on peut arriver d'initiative à ce que le chien puisse repérer certains endroits. C'est une aide à l'enquête et a permis de découvrir d'importantes quantités de drogue. Mais c'est pas le chien n'est pas formé sur spécialement sur une grosse quantité de drogue. Et tous nos chiens sont formés sur des petites quantités.
Oui.
Et après, il y a un petit peu une histoire de chance, de tomber au bon moment, au bon endroit. Et puis, avec la dextérité et le flair du chien, on arrive à avoir de très, très bons résultats.
Alors, voilà. Parlez justement du flair de votre chien. Il arrive à détecter combien de drogues différentes ou d'armes aussi, puisqu'il détecte aussi des armes?
Non, il détecte pas des armes, parce que nous, chez nous, on a plusieurs chiens. On a des chiens qui recherchent la drogue, les billets.
Oui.
Il y a une catégorie de chiens d'armes et de munitions, une catégorie de chiens de recherche de produits explosifs.
D'accord.
Ce qui se fait que c'est un petit peu d'actualité en ce moment.
Et oui.
Et un chien de recherche de personnes disparues. Et pour l'Euro 2016, en préparation, un chien fumigène qui est arrivé là pour découvrir ça. Lui, il est spécialement...
Un chien de recherche de fumigène, c'est ça?
Fumigène.
D'accord.
Ce sera pour les stades, pour l'entrée des stades.
Eh oui, bien sûr.
En prévision de l'Euro 2006.
Donc, il sent les fumigènes, c'est ça?
Il sent les fumigènes, tout à fait. Exactement. En fait, c'est comme un chien de recherche de truffes. Et on le met sur une odeur initiale et après, c'est tout par le jeu que le chien fait l'association entre le produit recherché, le produit découvert, la découverte qui est récompensée par un jeu entre le maître et le chien.
Et oui,
il faut une complicité certaine.
Parce qu'il faut dire que vous travaillez en mission, mais le chien, lui, il joue.
Le chien, il joue. En fait, le chien a un comportement comme un enfant de 4 ou 5 ans. C'est-à-dire qu'il le fait toujours de façon ludique. C'est par jeu. Donc, c'est pour se faire plaisir à lui et pour faire plaisir à son maître. Et en fait, son ultime récompense, c'est le moment où, en fait, il a découvert.
D'accord.
C'est un marquage sur le produit recherché. Et à ce moment-là, on joue, on convainc le chien. Tout à fait.
Alors, vous dites qu'il recherche les drogues et les billets. Alors,
En fait, il recherche les drogues au départ. C'est un vieux chien qui recherche les drogues au départ. Mais souvent, lors des recherches, dans certaines quantités, il y a des quantités assez importantes, comme il y a quelques jours avec la sûreté départementale ou la PJ, nous faisons de grosses découvertes. Le chien peut prendre derrière une porte ou à un certain moment quand il peut remonter sur les molécules. Et ce qu'il y a, c'est que quand il y a 60, 70 ou 80 kilos de produits, ce qui représente énormément d'argent, et les malfaiteurs, ils se munissent de gilets pare-balles, d'armes automatiques ou de poings pour protéger leur cargaison ou leur butin, ce qui est tout à fait normal. Donc quand on arrive à des quantités pareilles qui se chiffrent en plusieurs centaines de milliers d'euros, ils sont obligés de garder des armes à disposition pour protéger, pour pas que notre groupe ou comme concurrent puisse leur prendre leurs produits, quoi.
Mais je parlais des billets. Il peut vraiment les détecter, les liasses de billets?
Tout à fait. Alors sur les billets, c'est un peu particulier, c'est un peu pareil.
Oui, mais c'est quoi l'odeur qui...
Et c'est sur l'encre et la matière du billet.
Ah oui.
C'est sur l'encre et la matière du billet. Donc souvent, on nous demande parfois pour nos chiens, parce qu'on a plusieurs chiens, on a 4 chiens qui font la recherche de billets et de produits stupéfiants. Le chien est mis focalisé sur une certaine odeur de référence et qui va rechercher, il va faire association. Par contre, quand on nous demande de rechercher des faux billets, comme ce n'est pas le même procédé de fabrication, ça ne marche pas toujours forcément, c'est pas fait pour des faux billets, mais que pour les vrais.
Ça veut dire que, bon, quelque part, je peux faire les courses avec votre chien, comme ça, au moins, il sait détecter les faux billets.
Il ne sentira pas les faux billets, c'est ça?
Bon, voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ce qu'il y a de bien, c'est que ça peut détecter des billets, mais en fait, sur certains chiens, comme Choc, qui est un ancien chien, qui ne faisait pas les billets au départ, parce que c'est une découverte qui a été faite par incident.
Ouais.
Ce qu'on
appelle
incident, c'est en association, parce que quand il y a du produit stupéfiant, il y a le produit de la vente, donc qui est souvent de l'argent, des armes qui sont là pour protéger. Et simplement, c'est que, comme Choc était un ancien chien, puisqu'il a déjà quelques années, et sur le produit stupéfiant, donc à la limite, s'il marque des billets, c'est que les billets proviennent d'une vente, d'un commerce de produits stupéfiants. Donc on peut faire l'association pour l'enquête, ce qui a permis, ou ce qui peut permettre aussi une aide à l'enquête lors du travail d'investigation des différents services d'enquête de Chine.
Alors justement, on en parlait avec François, c'est aux États-Unis où il y a une multitude de billets où il y a des traces de drogue dessus.
Oui, de cocaïne. Je crois que c'est 80-90% des billets qui, en fait, sont dans la nature aux US, il y a des traces de cocaïne dessus.
Exactement. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, se servent beaucoup, je crois, de billets de 1 dollar, surtout pour arriver à faire des espèces de pailles, de courtes pailles.
Ah bah oui.
Pour pouvoir renifler la cocaïne.
Et oui.
Aux États-Unis, c'est comme ça. Donc bon, chez nous, on n'en est pas encore là.
On n'a pas la bonne taille du billet.
Non,
c'est pour
peut-être,
ça.
Peut-être pas. Mais donc, ce qui permet de faire un lien avec l'enquête pour l'investigation après des services de main d'œuvre.
Alors quand il arrive devant une pièce ou je sais pas moi un meuble où il trouve de la drogue, il marque comment? Qu'est-ce qu'il fait comme comportement?
Alors le procédé initial de marquage qui a été fait par notre centre de formation, en fait le chien a changé de comportement.
Oui.
Le chien va essayer de remonter jusqu'au produit. Donc c'est au maître, c'est pour ça que ça s'appelle un conducteur de chien de produits stupéfiants ou d'autres. Il va changer de comportement. Et donc là, ce qu'on va appeler chez nous dans notre jargon, ça s'appelle une lecture du chien. Il va falloir qu'en fait, qu'il y ait une très, très grande complicité entre le maître et le chien pour connaître en fait les réactions du chien pour le moment où il va justement se mettre en quête, comme un peu un chien de chasse ou n'importe quel chien, il va se mettre en quête et qu'il va commencer à remonter sur la molécule en fait odorante du produit stupéfiant. Mm-hmm. Donc là, il y a une lecture. Et c'est au conducteur en fait à mener le chien à découvrir l'endroit précis où se trouve le produit stupéfiant. Et quand il va arriver devant, bon après c'est avec des années de pratique ensemble au cours des milliers de missions, qui nous a permis d'avoir cette complicité que nous apprenons, que chaque maître chien apprend à découvrir son chien. C'est pour ça qu'en recherche plutôt qu'en patrouille d'intervention, il y a un chien, un maître. C'est-à-dire que tout le long de la carrière de...
Le binôme est très important en fin de compte.
Voilà.
Alors,
voilà,
juste pour finir, Eric, il va prendre sa retraite?
Il va reprendre sa retraite, normalement, il devait prendre sa retraite là. Il a été prolongé d'un an. Et puisque cette capacité objective, ainsi que ses capacités
toujours intact.
Physiques, voilà, c'est aussi validé par un vétérinaire. Donc c'est en fonction
de... Il reprend du service, en fait.
Voilà,
c'est ça.
Il continue un petit peu, et puis au cours de... Ça fait 7 millions et demi de produits stupéfiants, 1 million et demi de drogue, 57 armes de poing et d'épaule.
D'accord.
22 kilos de cocaïne, ça fait déjà une jolie quantité qui revalise pour déjà je pense déjà avant tout à tous mes collègues, pour toute l'unité du CF de Marseille, ainsi que pour tous les collègues qui travaillent avec moi.
Merci beaucoup, Éric Tisserand.
Merci, un bon bilan de chef. Carrière.
Je vous en prie.
Merci.
Je vous en prie, c'est très aimable à vous.
Et puis, une petite caresse pour Choc, quand même.
Oui, bien sûr. Qui le mérite. Hein Laetitia.
Merci à vous.
On se retrouve dimanche prochain.
Oui,
6h-8h.
Bien sûr. Et on finit avec notre vidéo. Oui. Alors, c'est pas LOL 4, c'est LOL Lapinou.
Alors, vous l'avez vu cette vidéo parce que je n'ai pas eu le temps de la regarder.
Ah, mais vous allez voir, c'est des. Alors, ceux qui aiment les lapins savent que vraiment ils ont ce comportement-là. Donc, ils font que des bêtises. Et pour une fois, ce sont les lapins qui nous font rire.
Eh bien, voilà. À retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Vous cliquez sur j'aime au passage. On parlait tout à l'heure, Laetitia, d'une appli pour retrouver son animal de compagnie égaré. On a beaucoup de mails d'auditeurs qui n'ont pas noté le nom de cette appli.
Alors, c'est Buzz My Pet.
On va l'appeler BUZZMYPET. Voilà, Buzz My Pet. Ok, Buzz. C'est noté ?
Buzz My Pet.
Et on retrouvera ça aussi sur la page Facebook de vos animaux sur RMC.
Bien sûr, bien sûr.
Dans un instant, lui, on ne l'a pas égaré. C'est notre expert auto. Et pourtant, parfois, on aimerait bien le perdre. C'est Jean-Luc Moreau qui sera là dans deux minutes avec vos questions auto au 32-16. À tout de suite.